Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, et l'heure que vous voulez, si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, nous allons parler de polar, de manga et d'autres trucs. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images du manga, du comics et de la BD franco-belge. Ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné tout d'abord de Richard.
Bonjour Seb.
Enfin, bonsoir. Ça va bien ?
Bonsoir. Ça va. On se dépatouille avec les fils, c'est un...
Ouais, j'ai vu que... Il y avait un plat de spaghettis au milieu
de la
table.
C'est ça.
Je suis aussi avec Fabien.
Salut Seb, bonsoir à tous.
Et avec Luc.
Hello.
Bon, tout le monde va bien ?
Nickel,
ça va. Eh ben parfait.
Nickel chrome, ouais.
Super. Bon, on va parler... on y va dans le vif du sujet, j'ai pas... Sans préambule, sans...
Lâche-toi, sans préliminaire. Seb, il faut que tu te lâches maintenant.
Allez, c'est parti. On va commencer avec un manga plutôt jeunesse. Alors, j'adore les mangas, j'adore manger, et quand un manga me parle de nourriture, j'adore ça, en règle générale. Même quand ce sont des recettes qu'on ne peut pas faire. On évoquait avec Fabien Glouton et Dragon, on a aussi La Cuisine des Sorciers, qui est un spin-off de L'Atelier des Sorciers. Oui. Et dedans, il y a plein de recettes, et malheureusement, aussi bien dessinées sont-elles, on peut pas les faire, ce qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que je me suis dit, les petits encas de Monsieur Matcha, de Sato Orokura, dont on reparlera probablement dans 15 jours, et publié chez Nobinobi, c'est un manga qui parle de nourriture avec des recettes qu'on peut faire. Alors, l'histoire est super simple, c'est l'histoire d'un chat qui a une boutique, un peu comme la tienne d'ailleurs, Fabien, sauf qu'on ne peut pas y lire, on peut juste venir manger et picorer des petites choses. Et peut-être un peu comme toi, il ouvre tard le soir, parce que pendant la journée, il fait la sieste, vu que c'est un chat. Non,
alors,
pas comme toi.
Non, pas comme moi. Non.
Oh, la dernière fois que je suis venu, non.
Et ce monsieur Matcha, en fait, il a une petite jeune fille qui vient le voir avant l'ouverture de la boutique pour prendre son goûter en attendant sa maman. Maman ou papa, qu'on ne sait pas, puisqu'ils ne sont que très rarement évoqués. Et c'est tout mignon. Le chat, il est dessiné limite d'un seul trait. Il est tout en rondeur, tout en bonhomie, je sais pas, on a envie de le trip.
Il fait penser à un mochi un peu.
Ouais, on dirait une grosse peluche.
Qu'il a une texture de mochi.
Le dessin respire
parler français, s'il te plaît?
Alors, le mochi, c'est pâtisserie.
Ouais, c'est une pâtisserie japonaise à base de farine de riz gluant. Donc, c'est tout mou à la texture et c'est fourré à l'intérieur.
Voilà. Il suffisait de le dire.
Simplement.
Et c'est un truc qui est tout moelleux, tout. Mais là, le chat, juste à le regarder, on a l'impression qu'il est déjà hyper confortable. Il donne envie, en fait, d'aller se blottir contre lui. Il a l'air ultra sympa. Et donc, ce sont des tranches de vie où, principalement, le but de ces tranches de vie va être de parler de nourriture et d'évoquer des recettes, puisque la jeune fille va chercher à chaque fois des recettes. On a des espèces de mochi au potiron que Richard est en train de consulter.
C'est ça, j'allais dire, c'est drôle que tu en parles Luc, mais en fait il y a une recette de mochi.
Alors qui n'est pas tout à fait la même chose que les mochi, mais il y a plein de petites recettes, il y a des langues de chat, et à chaque fois la recette est bien présentée avec une fiche recette qu'on peut tout à fait utiliser chez soi, j'ai testé, j'ai validé. Attention cependant, il y a pas mal de recettes qui utilisent des ingrédients qui sont plutôt des ingrédients japonais qu'on va parfois avoir du mal à trouver. De temps en temps, on propose des alternatives. Des fois, on n'a pas d'alternative. Mais il y a un petit lexique à la fin qui permet de comprendre ce que sont ces ingrédients-là et puis d'essayer de trouver des équivalents. J'apprécie beaucoup l'anko. Donc l'anko, c'est de la pâte de haricots rouges sucrés. Et j'ai appris que l'anko, c'était juste une des 4 ou 5 variétés de pâte de haricots rouges sucrés.
Ah, en fait, alors déjà dans l'anko, dans la pâte d'haricots rouges, tu as différentes catégories en fonction de comment le haricot,
il est haché écrasé. Ou écrasé.
Voilà ça. Soit
t'as ça
gardes,
dans le lexique.
Voilà, soit tu gardes la peau seulement écrasée comme ça, soit c'est complètement écrasé sans la peau, soit voilà, il y a plusieurs façons comme ça. Ouais, tout à fait.
Bon, ça permet de faire un peu de culture G cuisine, mais c'est un manga qui est tout mignon, qui marche bien. Alors n'attendez pas une histoire fabuleuse, c'est vraiment des petites scénettes de vie et ça marche tout seul. Et moi, franchement, j'ai kiffé.
Oh, puis ça doit pouvoir être cool, faire ça avec ses enfants et tout. Ouais. Ça peut être sympa, parce que clairement, là, c'est pour les enfants, au vu du dessin, c'est en couleur. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, pour Noël, là, pour faire des petites... pendant les vacances, faire un peu de pâtisserie.
Ouais, famille. Puis les recettes sont pas très complexes non plus. Elles sont facilement accessibles. Un enfant comme ma fille, aux alentours de 10-12 ans, peut prendre le bouquin et faire les recettes quasiment tout seul. Ça posera pas trop de problèmes. Attention à bien lire la recette, les enfants, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Ça vous évitera les surprises, mais voilà.
Je me trompe ou c'est un manga qu'on lit normalement comme un livre normal?
Oui, c'est vrai. Mais
il est dans le sens occidental, tout à fait.
Non, hein.
Ah, okay. Il est dans le sens de lecture.
Vous rigolez, mais je découvre moi aussi, hein. Mais je pointe aussi des choses bizarres. Donc c'est un manga normal.
J'ai l'impression que Luc, à chaque fois, il découvre les mangas.
Alors. Pour détailler un petit peu plus aussi sur, pas forcément une anomalie, mais sur quelque chose à considérer, c'est aussi un manga qui est complètement en couleur. Chose qui est pas forcément ultra courante non plus, même s'il y en a de plus en plus, mais c'est des petites couleurs en plus qui sont pastels, pop.
C'est ce que j'allais dire, c'est beaucoup de pastels.
Il y a le côté très, très chaleureux, très kawaii de ce manga qui marche ultra bien.
Ouais, c'est vraiment fait pour les plus jeunes. Dans la conception, ça fait penser un peu comme les Chi In Vicha, où ils ont fait en sorte de les mettre en couleur, dans le sens occidental aussi, parce que c'est un des premiers mangas à lire, ce qui est plus facile d'accès au départ.
Bah, tout à fait. Il est conseillé à partir de 6 ans par l'éditeur. J'étais en train de regarder combien il y avait de tomes existants, je ne sais pas pour l'instant.
Je suis sur le coup.
Vas-y, je vais meubler en disant qu'il y a 15 recettes déjà dans ce petit tome, donc c'est un petit livre de recettes, et qu'il y a une prépublication numérique au Japon sous le titre de Kaneko-san Yasashi Oyatsu. Voilà, avec mon super accent. Bon alors Richard.
Attends.
Non, mais c'est pas très très grave. On va continuer. Donc je redonne les références, c'est les petits encas de Monsieur Matcha de Sato Orokura. C'est publié aux éditions Nobi Nobi. Luc, est-ce que tu veux continuer ou est-ce qu'on reste sur le manga? T'es pas du manga très jeunesse, toi, là?
C'est pas très jeunesse, mais ça reste shonen pour une fois. Je crois que c'est le premier.
On peut faire ça.
À nouveau, il parle pas français.
Hein. Et ben donc, c'est parti alors.
Allez, c'est parti. Attends, je t'ai fait un petit générique.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, tu m'as dit.
Hop, on est parti sur le petit jingle.
Kaizoku Oni! これはなれ。何？お前はもう死んでいる。
Voilà.
Bah cool. Ouais, c'est génial, je trouve ça super. Plein de petites références, de plein de choses différentes, c'est cool. Donc ce soir, je vous parlais d'un shonen. Donc, qui s'appelle Mirai Nikki, le journal du futur. Donc, c'est pas tout récent. C'est édité par Casterman dans la collection Saka, donc leur collection vraiment manga. Et c'est sorti au Japon en 2006 et en France en 2009. Ça compte 12 tomes terminés, du coup. Et au dessin, on retrouve, et au scénario d'ailleurs, Esuno Sakae. Et comme je disais, c'est un shonen. Par contre, on est sur un shonen quand même, je dirais, autour de 14. À peu près 14 plus, l'éditeur conseille à peu près ça, parce qu'on est quand même assez violent.
De la violence, ouais.
Ouais, c'est de la violence, ouais, clairement. Donc du coup, de quoi ça parle? On a le personnage de Yukiteru Amano, qui est fils unique, jeune adolescent, très renfermé, souvent livré à lui-même. Ses parents, on a l'impression qu'ils sont quasiment jamais là, en fait. Donc, il est très détaché du monde qui l'entoure. En fait, il est juste observateur. Il préfère vivre dans un univers un peu fantastique qui s'est créé lui-même avec des amis imaginaires, plutôt que de se lier avec ses camarades de classe. Jusqu'au jour où Deus, une de ses créations, pas si virtuelle que ça, lui offre la possibilité de connaître l'avenir. Donc, on va voir un petit peu pourquoi, mais en fait, si Yukiteru, au début, mesure vite l'intérêt de ce nouveau pouvoir, parce que c'est plutôt cool, il découvre très rapidement que les enjeux se révèlent bien plus vastes et dangereux. Et on va partir sur une sorte de survival game, en fait.
Ok.
Donc, ça, c'est le résumé un peu de l'éditeur, un peu général, mais pour être un peu plus précis, donc Yukiteru, qui est donc très renfermé, il passe son temps à écrire son téléphone tout ce qu'il voit, mais vraiment tout ce qui se passe. Il a le nez tout le temps sur son téléphone, donc c'est pour ça qu'il est très associable. Et du coup, vraiment, le moindre truc, il va croiser un chat dans la rue qui traverse, il va le noter. Donc, et du coup, c'est assez particulier, il a pas d'amis, il se met un peu à l'écart. Et du coup, quand Deus, à un moment donné, lui va lui permettre de connaître l'avenir, c'est par rapport à cette particularité-là qu'il a avec son téléphone. C'est-à-dire que son téléphone, maintenant, va lui décrire ce qui va se passer dans le futur.
Il anticipe. Quoi.
Voilà, ça anticipe ce que lui-même écrirait, en fait, quand ça se passe. Donc un peu particulier, assez original sur le coup. Et donc au départ, lui, c'est un adolescent, donc il va profiter un peu de ce pouvoir pour améliorer son quotidien, notamment ses notes, où il va commencer à devenir très fort en cours et tout ça, et plein des petites choses du quotidien comme ça. Sauf que il va vite découvrir que ce cadeau entre guillemets, c'est pas aussi cool que ça, parce qu'en fait, il va faire partie d'un jeu auquel participent 11 autres personnes. Et qu'au final, à la fin, il y aura qu'un seul survivant.
Moins cool, déjà.
Là, tout de suite, beaucoup moins cool. Sachant que, on sait très rapidement qu'ils vont tous avoir un pouvoir lié à leur téléphone et sur une capacité de voir des choses ou des événements dans le futur, mais tous de manière différente en fonction de leurs caractéristiques chacun. Lui, c'est vraiment tout ce qui est vraiment bien détaillé du futur, ce qui fait qu'il a vraiment un pouvoir quand même par rapport aux autres, certains autres qui est au-dessus. Parce que vu qu'il écrivait vraiment les moindres détails, c'est vraiment des choses très intéressantes. Et donc du coup, assez interpellé au départ, parce que ça va très vite en plus. Il nous met tout de suite dans le bain. Il n'y a pas beaucoup d'introduction, on sait très vite tout ce qui se passe. Et le décor est très vite posé, les enjeux à venir aussi. Donc clairement, ça va être un survival game. Alors au début, moi je me suis dit, bon, les survival games, c'est sympa, mais bon, c'est pas toujours forcément ma tasse de thé, il faut que ça soit bien amené. Et j'ai trouvé ça original déjà sur la forme et sur le fond, avec plein de rebondissements. Les autres participants ont aussi leur pouvoir et ils ont des profils de personnages très intéressants. Ils sont poussés, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans la psychologie de chaque personnage. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste survoler comme des fois on peut avoir dans des shonen d'action, on ne rentre pas dans le détail. Et là, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment pris ça en compte pour que on se retrouve bien dans l'histoire et qu'on ait des personnages vraiment avec des personnalités très intéressantes. Et du coup, des caractéristiques différentes et leurs pouvoirs du coup aussi.
Ce qui amène des interactions aussi.
Ce qui amène des interactions parce que l'objectif, ça va quand même être de tuer ses adversaires. Parce qu'il faut qu'il n'en reste qu'un seul à la fin. Donc, et l'objectif, du coup, celui qui va survivre à la fin, c'est de prendre la place de ce Deus, qui est au final, a priori, une sorte de dieu. Est-ce que c'est lui qui crée les choses dans le monde? Donc le jeu, c'est ça. L'objectif, c'est de survivre et de prendre sa place. Et bien entendu, chaque participant a des motivations totalement différentes quant au pouvoir qu'il ferait s'il venait à prendre la place.
Mmh.
Et donc, on est vraiment pris en haleine. Ça nous tient vraiment en haleine tout du long. C'est-à-dire que il y a très peu de temps mort. Il y a beaucoup de rebondissements et par contre, il y a quand même aussi pas mal de violence, puisque forcément, l'objectif, c'est de tuer ses adversaires. Et j'ai quand même trouvé que l'auteur réussissait à faire que c'était pas manichéen. C'est-à-dire qu'on est même les adversaires, ils sont ni bons ni méchants. Il y a des moments où on va avoir l'impression que vraiment, lui, c'est l'archétype du méchant et tout. Non, en fait, c'est plus fin que ça. Et c'est ce côté-là qui m'a plu. J'avais vraiment peur au début d'être sur un survival game basique. Et c'est ça qui m'a maintenu en haleine tout du long.
Donc, pas trop gore quand même ?
Non, ça va. Il peut y avoir quelques petites scènes de temps en temps quand même, mais bon, voilà ce que je dis, 14 ans, voilà.
Okay.
Ouais, 13-14, ça passe sans problème. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de notre héros, parce que lui qui était timide, craintif, complètement à l'écart de la société, bah, va falloir qu'il se bouge un peu quand même là. Parce que forcément, ça va le bouleverser toute sa vie. Et du coup, voilà, on va suivre un peu comment il va évoluer aussi, ce qui est plutôt intéressant dans la façon dont il est, même si il a un peu un côté tête à claque par moment du fait d'être un peu des fois dit bah bouge-toi un peu quoi, ouais. dans ce côté-là.
Mais le jeu va l'obliger en fait à
voilà,
avancer.
Il va pas avoir le choix. Puis en plus les rencontres qu'il va faire, notamment une des presque des héroïnes parce qu'elle est quasiment tout le temps avec lui, qui est en fait elle le kiffe. Voilà, clairement elle l'adore, elle est amoureuse, mais elle a un côté assez psychopathe. Donc c'est assez particulier la relation qu'ils vont avoir. Et elle par contre elle est hyper forte. Et c'est plutôt elle qui va le protéger, mais il va falloir que lui aussi il se bouge un peu. Et après côté dessin, j'ai rien trouvé d'extraordinaire, c'est-à-dire que c'est un dessin classique, mais par contre je trouve qu'il fait vraiment le boulot dans le sens où il amène le côté dynamique. Il y a pas de temps mort, il arrive vraiment à retranscrire ça, ce qui fait que bah on s'arrête pas en fait. On a vraiment envie de connaître la suite au fur et à mesure, avec une fin sans en dire quoi que ce soit, qui j'ai trouvé intéressante et qui se finit bien. Bah bien dans le sens pas forcément bien ou mal, mais disons que l'œuvre se tient avec une fin correcte, ce qui des fois n'est pas toujours le cas, je trouve, dans les mangas où des fois certains auteurs ont du mal à finir leur œuvre.
Logiquement tout le monde meurt.
Et logiquement, ben non. Tout le monde meurt. À lire.
Je ne spoilerai pas.
Donc voilà. Donc moi, je le conseille. Je trouve que c'est un survival game intéressant et original.
Ok. Voilà. Ben parfait. Tu redonnes toutes les refs, s'il te plaît.
Donc c'est Mirai Nikki. C'est écrit par Sakae Esuno et c'est dans la collection Saka de chez Casterman en 12 tomes.
Ok. Ça va. Pas une collection qui va.
Non, c'est ça. En plus, c'est pas trop grand. Alors après. J'ai pas été voir si c'est toujours trouvable en neuf actuellement, parce que je sais que des fois il y a des arrêts de commercialisation, ou alors c'est pas écrit tel quel, mais c'est pas toujours évident. Mais je pense pas que ça soit une série très compliquée à trouver.
Ok, après si les gens peuvent pas l'acheter, ils viendront le lire
ils
chez toi.
Ils viennent le lire, voilà, ouais. Ils seront dispo.
Impeccable. Merci Fabien.
Mais de rien.
Luc, je te propose. Oui.
Je me permets, donc je vais chercher pour les petits encas de Monsieur Matcha. Non, il y a qu'un tome, et que ça soit en VO ou en VF.
Ok,
d'accord. Et très bizarre, en fait, en France, il dit 6 ans et plus, alors que l'éditeur japonais dit 8 ans et plus.
Ben, croire que non, j'allais dire un truc pas très très gentil.
Non, non, mais tu ne le dis pas. Non, tu ne le dis pas.
Non.
Si tu veux pas avoir de problème, tu ne dis rien.
Non, mais les âges, c'est très rigolo. Il y a des jeux de société dont les notices sont en plusieurs langues, et quand tu regardes certaines recommandations d'âge sur d'autres langues, t'as un décalage entre certains pays.
Il y a des codes culturels, effectivement, différents par pays, ouais.
C'est clair. Luc, avant de te lancer dans ta chronique, je t'ai dit que je marcherais un petit peu sur tes plates-bandes.
Oui, ce qui m'inquiète gravement.
Donc, j'ai une bande dessinée dans mon sac.
Pousse ce couteau, Luc, pousse.
Je vais te proposer de deviner ce que c'est.
Oh là 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 là.
Donc, c'est un polar.
Ouais.
Historique. Adapté d'un roman. Un roman très très connu. Qui a eu aussi une adaptation filmique. Très très connu. Tu me dis quand tu trouves, hein. Ou tu peux faire des propositions.
Moi, je penserais, j'irai vers Sherlock Holmes.
Non, même pas.
Bon.
Un indice chez vous.
Un indice chez vous, c'est un auteur. Les deux auteurs, donc l'auteur scénarisé et le dessinateur, sont des auteurs vraiment très célèbres. Les acteurs qui sont dans le film sont des acteurs fabuleux.
Ah, Shutter Island.
Non. Ah, historique. Plus vieux.
Historique, plus vieux. Ancien. Agatha Christie.
Non. Alors, ça se trouve, c'est même pas un polar. C'est moi qui me fais.
Ah là là, bah,
fais-moi.
Le départ, c'est pas les bonnes choses.
Ah, je vais le sortir.
Le pauvre Luc.
Non, mais là, c'est.
Regarde pas Luc,
je regarde rien. Je vous laisse, allez-y.
Ah si, c'est un film. Ah si, je l'ai vu, il est bien. Si.
Oui. Alors là, les deux autres l'ont vu. Luc ignore toujours.
Ouais, bah alors pour retrouver ça, c'est pas un film récent non plus, hein.
Non, c'est pas un film récent.
Mais... C'est vieux.
Bah, c'est un film bien. Avec Sean Connery.
Ouais.
Ah, Le Nom de la Rose.
Oui,
tout à fait. Bravo, Luc.
Avec, donc, c'est la BD de Manara.
Et c'est ça.
Tout à fait. Voilà.
Donc là, effectivement, bon, on va pas vous résumer l'histoire, mais une histoire de roman, enfin d'écrit perdu, démoniaque, dans un monastère perdu loin de tout. Un film magnifique, un bouquin magnifique, ouais. Et une BD magnifique aussi, parce que le dessin de Milo Manara est assez fabuleux. Alors, Milo Manara, qui était surtout connu il y a très longtemps pour ses albums érotiques, qui a su tourner un petit peu la page, mais pas trop quand même, parce que dès qu'il peut mettre des fesses et des pères de nichons, il y en a quand même un peu. Hein.
Et dans un monastère, faut le faire. Hein.
Et dans un monastère, bah, on a des enluminures.
Il y a une scène, dans Le Nom de la Rose, d'accord ?
Oui. Bah, des fois, t'as pas besoin juste d'une scène. Hein. Oui. Il suffit juste de tableau. Mais ça marche très bien. Son coup de crayon fonctionne ultra bien. C'est une pure pépite. L'ouvrage en plus est sublime. La couverture, on a Le Nom de la Rose en doré, engravé. Au dos, exactement de la même manière, on a le résumé qui est en doré, et c'est super beau.
À lire, on en a beaucoup parlé, hein, parce que ça correspond à la ressortie donc du Nom de la Rose, la version restaurée du film de Jean-Jacques Haneau,
oui,
qui doit ressortir. Et effectivement, là, on touche à quelque chose qui est terriblement emblématique, hein, parce que le roman de Umberto Eco est une pierre dans le roman qui est vraiment importante. Umberto Eco n'est bien évidemment pas n'importe qui. Donc je suis curieux de le lire. Ça, je peux te le dire. Voilà.
Il faut. Moi, je vous le conseille vraiment. On passe un excellent moment. C'est quand même une BD qui est assez bavarde, parce qu'on a quand même des planches, où les gens discutent beaucoup. Mais c'est adapté d'un roman avec beaucoup d'infos, qui est quand même un roman. Le film est très sympa, mais il a édulcoré pas mal de choses. Il est moins exigeant, on va dire. Et c'est vraiment un très très un très très bel ouvrage.
C'est un roman subtil parce que c'est un roman à clé. Et la clé, on a beaucoup de mal à la découvrir. Il faut vraiment avancer dans le roman tranquillement pour commencer à comprendre la base philosophique du roman. Et effectivement, le film, il est plaisant, il est génial. Hein. Moi, j'adore ce film. Hein, il est génial.
Très, très bien.
C'est le souffle de Jean-Jacques Haneau quand il est à son meilleur.
T'es quand même catégorisé polar ou pas pour toi ?
Ah bah oui, c'est un polar. Oui, c'est un polar. Il y a une enquête. Hein, il y a une enquête. Alors dans un monastère. Et puis de toute façon, une enquête menée par Sean Connery, c'est nécessairement un polar.
Mais oui.
Bon, je sais pas si Umberto Eco l'avait vu comme ça, mais
je pense pas qu'il avait imaginé un acteur dans le rôle. Je redonne vite fait les références. Du coup, c'est Le Nom de la Rose, le livre premier. C'est de Milo Manara au dessin et adapté de l'œuvre d'Umberto Eco. Et c'est publié aux éditions Glénat. Et c'est chambé.
Livre premier,
ouais, c'est pas fini.
Oui, ça
ils l'ont fait en plusieurs parties.
Ça m'étonne pas parce que le roman est très très long.
Il y avait un petit cahier graphique à la fin, j'ai pas oublié de mentionner. Eh ouais, quand on dit qu'il y a des filles.
Ah bah il y a Manara, c'est voilà. Manara.
Voilà. Bon, je te laisse compléter et je reviendrai sur tes plates-bandes juste après, tu vas voir.
Bon sang, mais c'est
ta soirée.
Je suis coincé.
Entre
les mangas et tout, c'est l'enfer. Cette émission est un enfer.
Allez, je lance ton générique.
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh ben, aujourd'hui, voilà, Seb et toute l'équipe, toute la fine équipe de la case de Seb, c'est un dessinateur de l'Anjou que je veux présenter, donc en route du côté de Segré et de Damien Geffroy. Il a commis un album avec Aurélien Ducoudray au scénario qui porte pour titre Inspecteur Balto. Nos deux compères posent le décor dès le départ sur la couverture avec cette forme d'exergue. Il a tous ses trimestres, mais la retraite ce n'est pas pour lui. Flic un jour, flic toujours. Et cette couverture nous montre un homme vu de dos sur un balcon regardant une ville. Il est âgé, mais il porte un holster d'épaule, à ses pieds, un chat.
Quel suspense !
Tu ne crois pas si bien dire, Seb, tout commence dans un commissariat de police. C'est un pot de départ à la retraite banal, un peu vieillot. La tradition, sur la table des bouteilles, sans doute du mauvais mousseux et des gobelets en carton. Et puis des paroles, elles aussi répétées à chaque fois pour l'occasion. Mais si les personnages échangent ces paroles, le commentaire est une métaphore qui parle de vieux éléphants qui cherchent un endroit calme pour supporter la vieillesse, pour expliquer que pour les flics, à la retraite, leur solution est d'acheter un flingue pour se le mettre sous le menton.
Eh bien, chers amis déprimés, bonsoir.
Oh là, pas si vite. Changement de décor, page 5, avec un second titre digne des romans de la série noire version années 60. Inspecteur Balto dans Manu France, Bichon et Cam Girls. Un bar, le Balto, et un ancien flic qui tient ses permanences. Malgré la retraite, il a pas lâché le métier, il se la joue solo et mène ses petites enquêtes. Cette fois, ce sont deux femmes qui le consultent. Elles s'inquiètent pour une de leurs copines, Ulla Santana. Elle a disparu et au cours de la conversation, on comprend que ces trois femmes sont des Cam Girls, des femmes qui se prostituent uniquement en vidéo. Mais pour l'inspecteur Balto, ce sont simplement des putes. Conflit de génération. Il se fait rapidement remettre à sa place. Elle lui explique que les putes préfèrent qu'on les appelle des escortes. Mais qu'elles, elles sont des cam girls. Elles ne couchent pas. L'inspecteur Balto accepte la mission. C'est un homme d'un autre temps. Il n'a pas de smartphone. On ne peut le contacter qu'en laissant un message écrit au bar. Il va commencer son enquête à l'ancienne et en utilisant son ancien réseau professionnel. Il démarre par la banque de la disparue, il y a ses entrées, accède au back-office et aux informations strictement confidentielles. L'enquête va lui faire découvrir un univers ignoré de lui et surtout va le faire revisiter son propre passé.
Ben ça a pas l'air mal cette histoire.
T'as raison Seb, c'est vrai que le scénario est brillant. Il nous emmène dans un univers peu exploré, l'envers du décor. Terminé la prostitution sur le trottoir, fini le téléphone rose archaïque de l'époque du Minitel. Bienvenue dans le 21e siècle, dans l'image tarifée, dans la frustration ultime. Bienvenue dans la société de consommation dans laquelle celles qui n'ont rien, ni formation, ni travail, mais pourtant une vie à vivre, n'ont que comme recours, encore et toujours, la vente de leur corps. On est loin des escortes de luxe, on est dans la misère sociale, mais aussi dans la vie populaire, qui n'empêche ni d'avoir sa dignité, ni d'avoir son honneur, ni d'avoir une conscience politique, aussi ténue soit-elle. Les femmes décrites sont des femmes de tous les jours, et si les tenues qu'elles portent et qu'on entreaperçoit au détour d'une case, l'inspecteur Balto les appelle des « déguisements », elles ne sont en réalité que la projection des fantasmes des hommes sur ce qu'ils pensent être l'érotisme. Autre élément important, l'épaisseur du personnage de l'inspecteur Balto. S'il semble être un banal petit retraité poussiéreux, sa vie est bien plus complexe que ça. Il est marié, mais il vit seul dans son appartement. Pour son enquête, il a besoin d'outils modernes et c'est la fille de sa voisine, une ado rebelle, qui va l'initier à la manipulation d'un ordinateur, à l'utilisation d'Internet et au recours au pseudo.
Ben... ça a l'air vraiment bien tout ça. Mais le dessinateur, là, Damien Geoffroy, coucou d'ailleurs, il est à la hauteur ou pas?
Eh ben, le Damien Geoffroy, notre secret de service, on peut lui faire coucou. Il relève le défi haut la main. D'accord, c'est de la BD franco-belge, la plus classique qui soit. Les personnages sont bien campés. Et notre inspecteur Balto, il est insignifiant à souhait. Au regard du sujet, Damien Geoffroy aurait pu en profiter pour représenter l'univers de ces femmes avec dessins suggestifs et poses érotiques pour contenter le côté voyeuriste du lecteur. Perdu. Les seules images où l'on voit une femme nue, ce sont celles dont se souvient l'inspecteur Balto quand il se remémore son passé. Il y a donc des flashbacks. Et pour les signifier, Damien Geoffroy, il réussit l'exploit d'utiliser un procédé cinématographique. Pour nous montrer qu'on va arriver dans un flashback, il incruste une image du passé dans une image du présent. Et puis, il faut parler de la couleur. C'est à une collègue d'atelier que Damien Geoffroy s'est adressé, Mathilde d'Alençon. Elle a retenu l'option d'une polychromie assumée, les couleurs claquent et s'adaptent au contexte, un peu différente de l'image de couverture qui est toute d'harmonie.
Tu dis qu'il est de Segré. Est-ce qu'il travaille tout seul?
Ben non, il travaille pas tout seul, donc il fait beaucoup de route, parce qu'en fait, il fait partie de l'atelier Kawa de Mazémillon, qui est atelier Kawa, qui est piloté par l'incontournable TM. Et donc, quand je disais que Mathilde d'Alençon était une de ses collègues d'atelier, Mathilde d'Alençon, elle fait aussi partie de l'atelier Kawa. C'est un atelier qui est important parce qu'il réunit un nombre impressionnant d'autrices et d'auteurs de BD de haut vol. Et cette cohabitation semble générer une véritable énergie. Ça contredit l'idée que l'effervescence ne pourrait trouver de bonnes conditions qu'en milieu urbain. Autre petit détail qui a son importance, note Damien Geffroy. C'est un tout jeune dessinateur. Entré sur le tard dans le métier, il a 40 balais, mais ça fait juste 5 ans qu'il est professionnel, après avoir été enseignant. Et Damien Geffroy, il sera présent au Festival Angers BD le week-end prochain. Donc si vous voulez vous faire dédicacer ce superbe album, faut y aller. Pour les références, donc la BD s'intitule Inspecteur Balto. Elle est de Aurélien Ducoudray et Damien Geffroy. Et elle est publiée aux très bonnes éditions Grand Angle.
Fabuleux.
Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Tu le connais, l'ami Damien?
Oui, Damien, oui, je le connais bien. Oui. Alors, je connais bien l'atelier Kawa. Oui. À tel point que je vais enchaîner directement, en fait, avec d'autres personnes qui sont issues de l'atelier de Kawa, à savoir Olivier Supio. Et encore Damien Geffroy.
Le magnifique Olivier Supio. Oh là là. Et extraordinaire bande dessinée. En discutant avec Damien Geffroy, je lui faisais remarquer qu'il y avait du Lucky Luke là-dedans, hein.
Complètement.
Dans cette couverture, hein.
La couverture, on imaginerait un Joy Jumper avec Lucky Luke.
Ah oui, tout à fait, oui.
Faut imaginer une espèce de boucle en pierre avec un cheval qui est à l'envers et le cavalier qui est bien vissé dans les étriers et qui ne bouge pas. Oui. La BD s'appelle Les Cowboys sont toujours à l'ouest, c'est aux éditions Fluide Glacial, c'est de Damien Geffroy au dessin, d'Olivier Supio au scénario. Et là, on n'est pas tout à fait dans l'enquête où il y a de l'humour quand même dans Inspecteur Balto.
Oui, oui.
Mais là, on est plutôt dans du gag à la Fluide Glacial. Oui. Et on va suivre une journaliste qui va interroger un mania du pétrole et qui va lui demander ce que c'est d'être un cow-boy, en fait. Et à chaque fois, on va avoir une petite scénette où il va présenter un tableau et raconter l'histoire du cow-boy en question. Donc c'est des sketchs, c'est une BD à sketch qui marche très bien, c'est très drôle, le dessin de Damien est fabuleux, hein. Je suis en train de me demander s'il a pas fait une... Non, c'est Laure Durandel qui fait les couleurs, donc ouais. Je ne sais pas. Les sketchs vont jusqu'à l'intérieur de la couverture, où la couverture d'avant et la couverture de... Enfin, l'intérieur et la fin sont un sketch en deux cases.
Ça, c'est cool.
Je vous la bascule si vous voulez la feuilleter. Mais c'est un truc qui marche très bien. Toutes les vannes ne se valent pas parce qu'effectivement il y a tout un tas d'humours différents qui sont déployés dedans. Mais il y a des trucs complètement idiots. Il y a le chasseur de primes qui va chercher quelqu'un qui est affublé d'une malédiction qui fait que tous ceux qui ont essayé de le tuer meurent. Il y a un braquage de train. C'est vraiment très très drôle. C'est pas le même humour, mais c'est dans la lignée des aventures sidérantes de Taj l'Immortel qui avait déjà été publié aux éditions de Fluide Glacial, avec le même duo. Donc voilà.
Effectivement, faut dire, mais si les gens le savent pas, qu'Olivier Supio, c'est aussi un grand dessinateur.
Ouais.
Un très grand dessinateur. Et là, il est co-scénario. Enfin, il est capable de faire les deux. C'est-à-dire, à la fois d'être au scénario, ou d'être au dessin, ou d'être aux deux. Moi, j'avais été surpris, effectivement, de voir son nom simplement au scénario. Mais effectivement, l'album est super, quoi. C'est vraiment un bel album, ouais.
Ça marche très bien. Ça fonctionne. Effectivement, en tant que scénariste, après, il a quand même quelques années de carrière. Ah. Il est un peu plus ancien que Damien, du coup. Comme dans les cowboys, en fait, on a le rookie puis le vieux routard,
oui.
Qui se tiennent la main et qui font de belles choses ensemble. Les cowboys sont toujours à l'ouest, donc du coup c'est aux éditions Fluide Glacial, c'est de Olivier Supio, c'est de Damien Geffroy et il sera en GBD, donc ce sera aussi l'occasion de venir faire dédicacer un des nombreux albums qu'il a pu dessiner parce que Il enchaîne
bosse,
en fait.
Il bosse beaucoup puisqu'il a sorti en même temps Sunugal, qui vient de sortir, là, qui est la suite de
Village Global,
tout à fait. Alors là où il a travaillé encore, c'est encore un autre univers. Il surfe sur beaucoup d'univers, Damien Geffroy. Moi, j'aime beaucoup le personnage et en plus, c'est un mec super sympa.
Le mec est vraiment très sympa. Ouais. Alors, je vous propose de faire un exercice un peu différent.
Encore devenir un polar?
Non, absolument pas. Là, je vais vous faire écouter quelque chose puisque j'ai eu l'occasion d'interviewer Anthony Roux, qui est l'éditeur de Ant Edition et qui nous parlait en fait d'un album qui est en financement participatif actuellement, qui s'appelle C'est pour qui. C'est en financement sur la plateforme Ulule et c'est une BD qui parle en fait d'un auteur qui va à la rencontre de ses auteurs, enfin de ses lecteurs. Et c'est une interview qui sera en deux parties. Donc je vous laisse écouter la première partie dès ce soir. À tout à l'heure.
Bon, je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony qui gère Ant Edition et on va parler de C'est pour qui. Qui est en projet actuellement en financement participatif sur la plateforme Ulule. Il reste au moment où j'enregistre ces mots 14 jours et on est à pas tout à fait à 50%. Mais de quoi ça parle, C'est pour qui?
Oui, ben bonjour. Alors, C'est pour qui, c'est un projet qui a été fait avec un dessinateur qui s'appelle Arnie West. Et ça croque le quotidien d'un auteur de bande dessinée avec pas mal d'anecdotes sur la vie dans les salons, les séances de dédicaces notamment. Et aussi tout son travail qu'il avait fait pour un magazine qui s'appelait L'Immanquable. Donc avec pas mal aussi des petites anecdotes autour de ça sur le fait de travailler pour la presse papier qui généralement en plus dans le domaine de la BD se porte pas super bien. Donc c'est un sujet qu'on voit très peu actuellement.
L'Immanquable, c'était un magazine de prépublication, si je me trompe pas.
Alors L'Immanquable, c'était un magazine d'information. Alors, ce qui était derrière, c'est ceux qui avaient fait le DBD Magazine.
D'accord.
C'est-à-dire que l'Immanquable s'est arrêté. Alors, j'ai plus la date exacte. Ça s'est arrêté très récemment. Et donc, il y avait de la prépublication et aussi de l'information sur la BD, quoi.
D'accord. Ok.
Ça s'adresse plutôt à un public de connaisseurs.
D'accord, vraiment destiné aux fans de BD pour avoir des infos sur la BD. C'est... D'accord. Arnu, qui n'est pas un auteur novice, donc, puisqu'il a déjà pu prépublier dans l'Immanquable, mais il a aussi, il est dessinateur principalement ou aussi scénariste?
Alors Arnu, il a déjà une jolie carrière dans la bande dessinée. Il a été comme on dit auteur complet sur certains projets. Ses premières publications, c'était justement des titres qu'il a mené seul. Et puis sinon, il a aussi sorti d'autres ouvrages où là, on va dire, il était entre guillemets que dessinateur. Et voilà, Arnu, il a commencé la BD donc en 2002, si je me trompe pas.
D'accord, ça fait quand même une petite carrière derrière lui qui est quand même... il y a quelques années derrière, quoi.
Voilà, par exemple, en tant qu'auteur complet, donc quand on dit auteur complet, c'est à faire à la fois le scénario et le dessin. Il avait fait un livre sur Amelia Earhart, l'aviatrice.
D'accord.
Et puis un de ses derniers ouvrages, c'est Les Woodrow, où là il est dessinateur, où il bosse avec Courty.
D'accord. Et alors, je vous laisse répondre à sa place, mais qu'est-ce qui lui a donné l'idée en fait de raconter son vécu d'auteur à la fois dans l'Immanquable et à la fois de faire une compilation, on va dire, qui sort maintenant dans C'est pour qui?
Alors là, c'est difficile de répondre du pourquoi du comment. Je crois que c'est l'Immanquable qui avait proposé d'animer cette rubrique, mais c'est vrai que j'ai pas le fond du pourquoi du comment, l'origine même du projet. C'était lui qui a prospecté, c'était l'Immanquable. A priori, c'était l'Immanquable qui en avait parlé. Et là, j'ai peur de dire des erreurs.
D'accord. Et qu'est-ce qui amène aujourd'hui
voilà, sur la genèse du projet en lui-même. Enfin, voilà, on va dire que le projet, il a deux histoires finalement. La première, c'est toute la vie qu'il a eu avec l'immanquable. Et il s'avère qu'Arnu habite dans le département voisin du mien. Et on s'était rencontrés sur un festival BD. Et c'est là où il m'a parlé de toutes ces planches qu'il avait réalisées pour l'immanquable pendant une bonne dizaine d'années. Il avait continué en plus à faire des dessins humoristiques sur les dédicaces sur cet univers-là. Donc il a un nombre incalculable de planches sur le sujet. Et finalement, bah, comme le magazine n'existe plus, bah, ces planches dorment dans des cartons. Et c'est là où il m'a dit, bah, pourquoi pas leur redonner une seconde vie et de faire quelque chose avec ça, mais en les orientant cette fois-ci vraiment tout public.
Et qu'est-ce qui motive Ant Edition sur ça ? Qu'est-ce qui fait que c'est un projet qui a séduit l'éditeur, on va dire ?
Bah, là aussi sur ce point-là, il y a deux, c'est à deux niveaux. Bah, le premier niveau, moi j'ai lu les gags et il y en a vraiment qui sont vraiment très très sympas. Donc moi j'ai une petite affection sur toutes les anecdotes de dédicaces. C'est vraiment mes gags préférés par rapport à ça parce qu'en plus je suis aussi auteur. Il y a des choses qui me parlent. Et l'autre aspect, on va dire, qui est purement aussi pragmatique, hein, comme je disais, Arnu habite dans le département voisin. Donc là, en plus, on peut vraiment travailler ensemble au local, défendre un livre en étant sur place aussi. Ça va être de la prospection, de librairies, de salons locaux. C'est vraiment en plus, voilà, de s'inscrire aussi dans cet écosystème local que j'ai pas habituellement avec mes autres titres. Et c'est vrai que ben ça peut être aussi plus sympa quand je vais sur un salon d'avoir un auteur avec moi présent sans amener une énorme logistique parce qu'il doit traverser toute la France Ça joue aussi pas mal. Et l'autre petit plus de ce projet, c'est aussi le fait d'avoir ce livre qui cette sélection qui va être vraiment orientée tout public, parce que bon, il y a certains gags qui vont être plus adultes et on a fait le choix justement de ne pas mettre ces gags là parce que le but c'est aussi d'avoir un public vraiment familial, grand public. Et c'était aussi un titre qui finalement me manquait un peu dans le catalogue. Chaque fois je le vois moi sur les salons par rapport à mes publications habituelles, j'ai la question vous avez quoi comme livre qui peut être lu par tout le monde dans la famille, surtout là ces temps-ci avec on va dire les crises autour du pouvoir d'achat. À une époque, j'avais le père qui pouvait se dire « je prends le livre politique et pour la mère qui préférait prendre le livre qui parlait d'histoire et j'avais un autre titre qui parlait très bien aux collégiens. » Là, c'est on voudrait un livre pour tout le monde.
Ouais, donc là, effectivement, ça resserre un petit peu le champ des possibles quand même.
Aussi. Donc voilà, il y a vraiment le côté à la fois... Moi, j'irai pas éditer un bouquin que je n'ai pas envie de lire. Ça fait aussi partie de l'ADN de ma structure éditoriale. Je vais pas me dire, je vais éditer ça parce qu'il y a un marché et qu'il faut impérativement aller dessus. Déjà, je me vois pas défendre un livre que j'aurais du mal à aimer. Et puis aussi qui sont en raccord avec mes valeurs. Et là-dessus, avec Arnu, ça fonctionne très très bien parce que il a aussi une sensibilité sur tout ce qui est question environnementale, sociale, sociétale. Donc, on se retrouve là-dessus aussi, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est effectivement, il y a des liens qui se sont créés là-dessus.
Exactement.
On parlait tout à l'heure d'avoir un auteur en dédicace. Donc, c'est aussi l'occasion d'alimenter la machine, puisque les planches qui sont créées sont souvent des retours de dédicace. Il y a une petite polémique, on va dire, en ce moment sur justement les dédicaces et le don. Est-ce que je peux avoir votre avis là-dessus ?
Bah, moi j'ai l'avantage et l'inconvénient d'avoir une double casquette de scénariste et d'éditeur. En tant que scénariste, l'essence de dédicace, quand on en fait une, ça tient du miracle, tout simplement parce qu'on ne fait pas de jolis dessins, donc on nous invite pas, très rarement. Et en qualité d'éditeur, dès que j'ai le malheur de dire que je suis aussi éditeur, je passe d'auteur pouvant être invité à « Oh, un éditeur, il a donc forcément de l'argent, on va lui faire payer son stand.
» Ok.
Donc, moi, c'est vrai que j'ai un rapport qui va être assez différent avec la dédicace. Puis moi, en plus, moi, c'est un exercice que j'adore. J'aime beaucoup être sur des salons, ce côté de rencontrer le public, d'échanger avec eux. Bah, moi, à chaque fois, sur les dédicaces, c'est une des rares fois où je dessine. C'était moche, mais je dessine quand même. avec l'idée de que ma dédicace soit vraiment personnalisée avec l'échange que j'ai eu avec la personne. Mais parce que ça, je peux me le permettre en tant que scénariste. Et même, cette question serait posée à des dessinateurs dans des registres différents, il y aurait vraiment des réponses très différentes. Un dessinateur qu'on va dire, entre guillemets, bankable, il va attirer un public de collectionneurs, il aura pas du tout les mêmes relations sur les dédicaces que quelqu'un qui va faire une BD peut-être plus, on va dire, tout public, ou au contraire, qui va s'adresser à un public de passionné dans un registre particulier. On va dire que celui qui va être bankable va attirer aussi cette foule de collectionneurs. Ils vont pas forcément venir le voir pour le livre ou même pour lui en tant qu'auteur, mais pour la valeur qu'elle a, cette dédicace. Et c'est vrai que le discours est forcément différent. Donc moi, c'est vrai que sur la polémique en elle-même, sur les dédicaces, je résumerai par une chose: chaque autrice, chaque auteur fait comme elle a envie et surtout que le public soit respectueux de la personne qui est de l'autre côté de la table et tienne compte de cela, quoi. Enfin, c'est à la base, la dédicace, ça reste quand même une petite un échange, c'est pas juste des machines qui sont en train de faire des dessins, puis c'est pas censé être non plus des œuvres d'art. Au pire des cas, quelqu'un qui veut se acheter une dédicace ou avoir un dessin super 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 beau, ben le plus simple, c'est de prendre contact directement avec l'auteur et qui serait ravi de faire un dessin à la commande. Alors oui, ça a un prix, mais en même temps, c'est ce qui permet à l'auteur de vivre.
Et puis c'est du travail.
Et c'est du travail, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, quand on est présent sur des salons, c'est du bénévolat, ou parfois, quand les salons appliquent des tarifs type tarif de la charte, c'est rémunéré, mais ça reste quand même un travail le week-end, samedi, dimanche, plus le temps de déplacement, voilà. Donc il y a un boulot derrière qui est fait, et c'est pas juste on est derrière une table à enchaîner. Enfin, moi j'aime bien quand j'enchaîne, parce que là j'ai vendu des livres, mais
c'est la double casquette qui parle.
Voilà, ça c'est la deuxième casquette. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'auteurs, c'est quand même quelque chose qui est fait sur au détriment de leur vie privée. Surtout en plus qu'il faut penser que quand des auteurs sont d'habitude rémunérés en avance sur droit, en gros, c'est une somme qui est avancée par l'éditeur. Et tant que cette somme n'est pas remboursée, l'auteur ne touche pas de droit d'auteur. La plupart du temps, tant que cette somme n'est pas atteinte et l'auteur fait des dédicaces, il ne va rien toucher. Donc on est vraiment, c'est du bénévolat plus, hein, dans ce cas-là.
Ouais, c'est venir à la rencontre des lecteurs, mais ouais, sans l'assurance d'avoir un gain en retour derrière. Ouais, ok.
Oui, de toute façon, moi je l'ai vu, hein, déjà, des auteurs qui ils savent que leurs avances sont pas remboursées. Il faut vendre encore 1000 bouquins pour espérer commencer à toucher les droits d'auteur. Ils font un salon, ok, ils vont peut-être faire 50 dédicaces dans le week-end. Il n'empêche que pour atteindre les 1000, va en falloir faire un paquet de salons pour pouvoir continuer, pour se dire, ah ça y est, je vais enfin peut-être toucher 1 euro par livre vendu.
Effectivement, c'est pas mirobolant.
Donc, combien de week-ends qui vont être passés, avant. Mais après, voilà, moi sur les dédicaces, comme je disais, j'ai pas le même rapport. Et moi, c'est vrai, c'est quelque chose que j'adore. Bon, sauf quand les salons, il y a pas un chat et qu'on s'ennuie fermement. Mais sinon, le reste du temps, moi, j'adore y être. Donc.
Ok, donc il y a un peu de bienveillance pour les lecteurs, enfin de la part des lecteurs vers les auteurs, ce serait quand même sympa.
Voilà. Voilà. Et j'ai la chance aussi, je tiens à le préciser, c'est que j'ai un lectorat qui est super chouette. Donc quand c'est pas pour flatter le lectorat que je dis ça, c'était que de base j'ai un lectorat qui est aussi bienveillant. Donc quand j'ai des gens qui connaissent déjà le travail qui est fait chez Antédition, les gens qui viennent, j'ai pas ce rapport mercantile de ah je veux tel bouquin pour avoir telle dédicace pour pouvoir la revendre derrière. Il y en a qui viennent même pas pour acheter un livre, ils viennent juste pour dire ah bah tiens j'ai acheté tel bouquin à telle époque ou je vous suis sur les réseaux, qui viennent juste discuter, hein. Ça peut pas, c'est pas forcément une vente, hein, une rencontre, hein. C'est aussi d'avoir des retours, d'avoir des échanges avec des gens qui peuvent nous lire ou pas nous lire aussi, mais qui suivent plus ou moins notre travail.
Et on s'est un petit peu éloigné de la BD en elle-même, mais est-ce que Arnu est sympa avec ses lecteurs, du coup, dans l'album en lui-même, ou avec les gens qui viennent le voir en dédicace, ou est-ce qu'il est plutôt acide?
Alors dans la BD, Arnu parfois est pas forcément très sympathique dans l'album tel qu'il se croque. Après, pour l'avoir vu en direct et sur des séances de dédicace, c'est une perle. Donc il n'y a pas du tout de problème. Il a fait le choix justement d'avoir de temps en temps ce petit personnage râleur, bougon sur des dédicaces. Mais c'est pas quelque chose. Il va croquer certaines choses des extrêmes. Mais pareil, lui, la plupart du temps, en plus, Arnu fait beaucoup de salons au local et il rencontre des gens qui apprécient son travail, mais qui même des gens qui le suivent à chaque album parce qu'il y a le côté, il est du coin, on le connaît. Je crois que c'est demain, il va même faire une séance de dédicace dans une boulangerie à côté de chez lui.
D'accord.
Voilà, c'est une démarche qui est tout à fait différente, mais Et c'est vrai que là, il est vraiment sur le côté échange, de voir des gens qui apprécient son boulot, qui suivent l'artiste. Donc, entre le Arnu des dessins et le Arnu en vrai, il y a quand même une petite différence. Heureusement, oui, d'ailleurs.
C'est un personnage qui est une caricature de lui-même, quoi.
Voilà, c'est ça. Puis parfois, il y a le côté, on va dire, un petit peu se défouler, hein, cathartique, hein, de certaines choses qu'on a envie de dire. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, sur des salons d'avoir envie de balancer une petite punchline à des personnes pas forcément agréables. Alors généralement, ceux-là, c'est pas les lecteurs qu'on a habituellement. C'est juste des gens qui viennent pour le plaisir d'être désagréables. Bon, l'avantage, c'est que je peux me permettre des moments de le faire.
Bon. On arrive sur la fin de l'interview. Moi, j'ai toujours une petite question assez simple, mais en même temps tellement difficile à répondre. En quelques phrases, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'on achète C'est pour qui, ou pour qu'on achète des albums dans tes éditions?
C'est pour me nourrir, merci. Mais sérieusement, oui, c'est un peu ça. Déjà, si les gens aiment la BD, aiment lire des livres sympas, ces livres, ça va leur parler. Ça peut être des idées de cadeaux aussi. Et quitte à mettre un petit peu des sous un jour dans un album, je parle même pas que pour ma boutique, hein, je parle vraiment de façon globale, de regarder ce que font tous les éditeurs indépendants, pas forcément que dans la BD. Parce que là actuellement, les indépendants, c'est très très compliqué pour eux. Et si on veut vraiment garantir aussi une diversité éditoriale et que ce soit pas tout dans les mains de Bolloré et compagnie, il faut défendre et soutenir les indépendants. Donc voilà, ça peut être des idées de cadeaux, des idées de lecture, et puis même si les personnes, elles ont pas forcément beaucoup de moyens, ça peut être de conseiller aussi ces livres dans les bibliothèques. et même de faire un petit peu de pub autour en disant bah voilà, j'ai vu tel bouquin.
Pardon. Eh ben, on arrive à la toute fin de cette émission. Là, vous venez d'entendre, je ne sais plus, vous venez d'entendre Anthony Roux pour les éditions Ant, donc Ant A-N-T, et qui nous parlait du financement participatif de C'est pour qui de Arnu West, disponible sur la plateforme Ulule. C'est une interview qui est en deux parties, parce qu'effectivement, ce que je disais avec mes camarades, faut que j'arrive à faire des interviews plus concises, parce qu'on part dans des discussions qui sont très intéressantes, mais voilà, ça fait beaucoup de temps et je peux pas faire 5 émissions sur la même interview, ce serait quand même dommage. Donc là, on aura la deuxième partie de l'émission qui parlera peut-être un petit peu plus de la maison d'édition en elle-même. Maison d'édition Ant-Édition, qui est une maison d'édition un petit peu différente parce que Anthony voulait un modèle un peu différent. Voilà, c'est plutôt pas mal tout ça. On se fait refaire un petit tour de tout ce dont on a parlé, parce qu'on a encore un peu de marge, un peu de temps. Qui veut se lancer? Richard.
Ok, t'as commencé l'émission en nous présentant les petits encas de Monsieur Matcha, de Sato Urokura, édité par Nobi Nobi.
Ça a été suivi par une chronique de Fabien.
Ouais, donc moi je vous ai parlé de Mirai Nikki, qui est donc écrit et dessiné par Sakae Esuno, qui est dans la collection Saka de chez Casterman et qui est en 12 tomes.
On a continué avec Le nom de la rose, publié aux éditions Glénat de Milo Manara sur une œuvre d'Umberto Eco.
Suivi par un polar qui s'appelle Inspecteur Balto de Ducodray et Geffroy, qui est publié chez Grand Angle.
Et on a continué toujours avec Damien Geffroy et son camarade Olivier Supiot avec Les Cowboys sont toujours à l'Ouest, publié chez Fluide Glacial. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est pour qui annonce la toute fin de l'émission. J'espère que vous avez passé c'est Richard qui travaille, c'est moi qui suis fatigué. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère qu'on vous a fait découvrir de belles futures possibles lectures à venir faire dédicacer au festival Angers BD dans pas très longtemps. Et puis, je vous dis merci à tous les trois d'être venus et on se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il n'est pas fait de moi ici!
Justement! Les touristes en avant!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! So bright, so bright, that I forgot about the dark.
diriger.